Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Gainsbourg. On y entendra du Gainsbourg apparenté dans les titres diffusés dans l'émission. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Transpiration. On le sent déjà. Notre invité culture est l'animateur Denis Brognard pour son tout premier livre, Un soldat presque exemplaire. On va parler également avec lui de la nouvelle saison de Koh-Lanta qui démarre dans 10 jours. Et Angèle Châtelier va nous dresser son portrait musical. Et puis dans les indispensables, une compétition. Édition de talent organisée par un humoriste très populaire, c'est Louise Bernard, qui va tout nous raconter. Et puis une comédie noire sur Netflix avec Marjorie Adelson. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel.
J'ai dit qu'on sentait la transpi, c'était une façon de parler, c'était une image.
J'espère bien pour vous.
On a les masques de toute façon. C'est l'heure de l'écran de veille Bertrand, et vous prenez justement soin de nous ce matin.
Je dirais même plus, je prends bien soin de vous.
Prenez bien soin de vous.
Oui, les beaux jours reviennent, le printemps arrive et avec lui, le retour des dossiers spéciaux dans les magazines Summer Body. Offrez-vous un corps de rêve pour pavaner sur la plage, avec en illustration un mec aux abdos tout droit sorti de Photoshop. Dans cette optique, j'ai donc regardé la seule salle de sport ouverte malgré la pandémie, Gym Direct, sur C8. Ah oui. Le principe, chaque matin, un ou une coach vous propose une séance d'exercice à réaliser dans votre salon. Alors autant vous le dire tout de suite, regardez ça, c'était rendez-vous en terre inconnue pour moi. Le combo sport plus matin, c'est beaucoup trop d'éléments que je n'aime pas réunis dans un seul programme. Gym Direct, c'est l'anti-Top Chef. Parce que Top Chef, tu regardes ça, ça donne faim, ça donne envie de cuisiner, ça met l'eau à la bouche. Mais alors Gym Direct, ça n'a strictement réveillé aucune envie chez moi d'enfiler un shirt en lycra moulant pour suer. En plus, au début, j'avais l'impression d'écouter la prochaine allocution de Macron sur le confinement.
On bouge plus, fixez votre écran. Voilà, restez concentrés, regardez-moi, ne bougez surtout pas.
Et pourtant, c'est bien de sport dont il est question. Et la séance d'hier était particulièrement corsée.
On va se donner grave aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, au niveau du périnée, etc. Ce qu'on n'est pas fait pour vous, parce qu'on saute beaucoup.
Ah, bon. Philippe, désolé. On va faire sans vous aujourd'hui. Je sais que niveau articulation, c'est pas ça. Et je parle pas de diction. Toute l'équipe garde en mémoire ce jour tragique où vous vous êtes claqué en récupérant votre café à la machine. C'était terrible. Alors bon, faites des coloriages en attendant. Moi, je poursuis. Mais vous pouvez quand même écouter.
Je vais le faire. Je vous écoute.
Gym Direct, c'est vraiment réservé à un public averti. Les novices sont priés de rester au vestiaire parce qu'ils n'emploient que des termes dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier matin.
Ok, Jumping Jack, on saute. On va faire le tipping. Ok, attention, on continue avec le vertige. Je crois que j'allais te stepper.
Que des
d'accord,
termes en anglais.
D'accord.
Tu mets Ségolène Royal devant Gym Direct, elle fait un malaise vagal direct. Click and collect, break Friday, break peace, on va parler anglais maintenant. Alors, la coach du jour, rien à dire. Elle remplit son rôle à merveille. Juste une petite remarque. Le sport, c'est déjà suffisamment compliqué de s'y mettre pour qu'en plus, on se fasse hurler dessus en permanence.
Expire, aïe. Voilà, portez-vous. Expire, parfait. Et voilà, c'est dit!
Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Ah, pour crier, il y a du monde, mais alors, pour compter correctement, il n'y a plus personne, écoutez.
13, 12, 11, 10, et 8, 7, 6. Le compte est bon.
On passe aux lettres. Non, vraiment, je suis pas la cible de Gym Direct. J'ai essayé, j'ai pas réussi un seul exercice. J'avais l'impression d'être un mix entre Jeanne Calment et une tortue sur sa carapace. Ah si, il y a un truc que j'ai réussi à faire. Voilà, c'est chanter en même temps que la coach. C'est la seule chose qui était à ma portée dans Gym Direct. Le Summer Body, ce sera pas pour cette année, les enfants.
Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Eva, journée spéciale Gainsbourg. Question du corps, alors j'imagine. Spéciale Gainsbourg sur Europe aujourd'hui. Est-ce que Gainsbourg est encore présent sur nos écrans?
Oui. La semaine dernière, vous évoquiez par exemple le très beau documentaire Gainsbourg, toute une vie. Il est toujours disponible en replay sur France.tv. Et sur la plateforme, vous trouverez également une pastille de 5 minutes intitulée 10 infos insolites, 10 éléments biographiques illustrés par quelques archives comme celle qui suit. Gainsbourg y parle peinture.
Vous regrettez un peu d'avoir renoncé à la peinture?
Ce serait un peu débile de ma part, mais en effet, je le suis. Je regrette.
Vous regrettez?
La peinture était un art majeur qui m'équilibrait intérieurement, et la chanson et la notoriété me disturbent.
Le trouble, enfin, même.
Oui.
Et comment ça, la peinture, vous équilibrez?
Bien parce que c'est une recherche purement esthétique et désintéressée.
Et oui, la peinture fut son premier art, la chanson le suivant, celle qui lui rapporta de l'argent. Extrait d'une interview découverte dans l'excellent documentaire Gainsbourg le Punchliner qui a été diffusé hier soir sur C-Star mais qui est toujours disponible gratuitement sur MyCanal.
Qui dit chanson dit droit d'auteur pour moi. Et ça c'est très important à mon âge d'avoir de très hauts revenus en droit d'auteur. Ça c'est de la sincérité, sinon du cynisme. Jouer les génies méconnus dans la chanson, merci. Ça, pas question.
Documentaire signé Stéphane Basset qui s'attache à dresser le portrait d'un homme qui aimait les mots, jongler avec eux. Un esthète des aphorismes, petit florilège.
Il était plus joli garçon, je serais mort d'épuisement. La laideur est supérieure à la beauté en ce sens qu'elle dure. J'étais déjà misogyne, je deviens misanthrope, il n'en reste pas grand chose. J'en ai une autre. Ce qui me gêne dans la jument, c'est la queue. La connerie. C'est des contractions d'intelligence. Des fois, je me permets d'être con.
Voilà, les archives sont absolument incroyables. Certaines ont rarement été vues. Elles sont commentées par des journalistes, des artistes, d'Alex Baupin à Jackie, vous savez, qui a été l'attaché de presse de Gainsbourg,
oui.
En passant par Sébastien Tellier, qui analyse avec beaucoup de justesse et d'intelligence l'œuvre de Gainsbourg. Et pour finir, je vous conseille le concert de Gainsbourg au Zénith, enregistré en 88, disponible sur la chaîne Olympia, qui est à retrouver aussi sur mycanal.fr. Gainsbourg grille cigarette sur cigarette, retient ses larmes d'émotion quand le public reprend en chœur ses tubes, savoure la prestation des musiciens qui l'entourent et appelle Lulu. Lulu, Lucien, son fils, il a 2 ans, il déboule sur l'immense scène sous le regard admiratif de son père qui entame un titre dédié au petit garçon, Eman Amen.
Salut les petits gars et les pisseuses. Et là j'ai 3 nouveaux titres. Ils sont pas dégueux. Et le premier c'est pour mon petit Lulu. Et ben, le petit Lulu il est là. Lulu, viens voir papa. Viens voir papa. Et voilà Lulu.
Quand je serai refroidi, je laisserai mon petit Lulu des nefs et mes abattus.
Voilà, n'oubliez pas, journée spéciale Serge Gainsbourg sur Europe 1 avec notamment la diffusion ce soir à 20h du documentaire tout sonore Gainsbourg Forever.
Merci beaucoup Eva Rock. Et puis on rendez-vous ce soir à 20h avec Émilie Mazoyer, vous l'avez dit. Merci Bertrand Chamerois. On
vous
retrouve tous les matins demain sans Gainsbourg, mais avec la chemise raccord en jean. L'imitation ex nihilo, sans préparation. 7h40, la touche âme dans la matinale de Mathieu Béliard. Dans un instant, notre invité Denis Brognard, mais d'abord musique avec un très beau duo, Étienne Dao et Dany, chanson composée par Gainsbourg comme un boomerang.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Philippe Vandel.
Je sens des baumes et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des baumes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les baumes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrai.
Comme un boomerang, texte et musique, Serge Gainsbourg, c'était Étienne Dao et Dany sur Europe 1. Dans un instant, Denis Brognard à l'occasion de la sortie de son premier livre, ça s'appelle Un soldat presque exemplaire, texte Denis Brognard.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Philippe Vandel.
Faut-il vous présenter figure de TF1, vous présenter Ninja Warrior, District Z et surtout Koh-Lanta qui va redémarrer dans 10 jours, pas ce vendredi mais le suivant. Vous allez évidemment nous en dire un mot, mais d'abord votre actualité, c'est un livre, un récit, un soldat presque exemplaire, c'est chez Flammarion. Vous l'avez écrit quand? Vous l'avez écrit pendant le confinement?
J'ai commencé le premier jour du premier confinement, il y a quasiment un an, et je l'ai terminé à la toute fin de l'été.
Ça raconte, je l'ai lu entièrement, ça raconte l'histoire d'un soldat, un homme qui aurait pu n'être qu'un héros. C'est le sous-titre sur la couverture. Un homme à la fois exemplaire et en même temps un salopard. Qui est ce Stanislas?
Stanislas, c'est un militaire français, c'est un fantassin qui s'est engagé très jeune, d'abord pour son service militaire, et puis qui s'est engagé ensuite dans une carrière militaire. Il est allé en Somalie, il est allé au Kosovo plusieurs fois, en Afghanistan, au Mali, il a fait toutes les opérations extérieures en Afrique, et petit à petit, un peu comme une bouteille qui se remplit d'eau, et bien lui, sa bouteille s'est remplie de stress post-traumatique. Et au bout d'un moment, et bien ce stress post-traumatique, il déborde de la bouteille, et il devient plus que gênant, il devient très impactant dans sa vie de tous les jours, et ce héros de guerre, parce que ça a été un héros dans ses missions, devient un zéro dans sa vie de tous les jours, et notamment dans sa vie amoureuse.
Parce que sa bouteille, elle s'est aussi remplie d'alcool.
Oui, elle s'est remplie d'alcool.
Et sa femme, elle l'a senti passer.
Non, mais c'est souvent ça, malheureusement. C'est-à-dire que quand vous êtes touché psychiquement par ce que vous avez vécu en faisant la guerre, eh bien, il y a forcément des palliatifs. Et l'alcool en est un, la violence en est un autre, évidemment.
Ouais, ça, parce qu'il battait sa femme,
ouais,
avec qui il avait un enfant,
bien
et
sûr,
qui restait avec lui. On en parlera.
Alors, c'est aussi une grande histoire d'amour. Ils s'aiment encore tous les deux, même s'ils ne vivent plus ensemble. Et ils n'ont pas encore refait leur vie parce qu'ils s'aiment encore.
L'amour,
malgré tout ce qui s'est passé.
L'amour, quand on tape, on peut s'en passer. Alors, ce n'est pas un roman, c'est un récit qui débute ainsi sur la page de garde. Tous les prénoms et noms ont été modifiés, écrivez-vous, pour respecter l'anonymat de chacun. Et à la toute fin du livre, il y a des remerciements, et voici le dernier. Merci à Stanislas et Marie qui m'ont accordé leur confiance et ouvert grand leur vie, ainsi qu'à tous ceux qui ont croisé leur route et m'ont apporté un précieux éclairage. C'est donc une histoire vraie. Ils existent vraiment.
C'est une histoire vraie. 70% de ce qui est écrit est vrai, les 30% restants sont romancés, parce que j'ai eu envie aussi, moi, de temps en temps de m'évader, mais pas sur les grands faits, sur la façon d'y arriver, et puis parce que aussi, de temps en temps, la mémoire de Stanislas, surtout plus que celle de Marie, mais la mémoire de Stanislas lui fait un petit peu défaut, donc voilà, j'ai eu besoin aussi de romancer, puis c'était une envie de ma part.
Comment vous avez travaillé avec de la documentation? Alors, moi j'ai lu des choses, je savais pas que ça se passait comme ça. Par exemple, vous racontez les combattants qui s'automutilent au niveau des doigts pour ne pas poursuivre une mission, ça arrive vraiment?
C'est arrivé, c'est arrivé. J'ai travaillé comment? J'ai beaucoup interrogé Stanislas, Marie, les gens qui étaient avec lui au combat, ses supérieurs, ses subordonnés. Des heures et des heures de conversation pour déjà avoir leur confiance. Quand vous voyez ce que Marie me dit, notamment sur sa vie personnelle, on ne peut pas rentrer dans le plus intime. Donc il faut une vraie confiance. Parce qu'au départ, elle ne voulait pas me parler. Parce qu'elle partait du principe que si elle me parlait, elle allait ternir l'image de héros de celui qui est le père de ses deux enfants.
Oh, dis donc, le héros, quand même, c'est je ne pensais pas que c'était la guerre, c'était cette violence. Je savais que c'était violent, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Je veux dire ce que je veux dire par là. Il raconte une attaque où ils combattent des militants islamistes avec nos canons. canon de 25, nous tirons des obus explosifs, tout ce qu'on a, un véritable déluge en direction des acacias pour que les éclats puissent atteindre les islamistes planqués dessous dans des trous. En appui, deux avions rafales déversent chacun une bombe de 250 kg. Un hélicoptère d'attaque Tigre tire des roquettes sur cette oasis. Le souffle des déflagrations ébranle nos blindés et c'est là où ça devient dingo. J'avoue, pendant ces deux heures de combat, je prends mon pied. Le spectacle auquel j'assiste me transcende. Cet orage d'acier et de feu donne naissance à un incroyable son et lumière de guerre.
Ouais, il m'a dit ça. C'est pas romancé, ça.
Non, mais c'est une sorte de jouissance morbide.
Mais ouais, mais c'est. Je pense que c'est un mélange, effectivement, déjà de choc post-traumatique, parce que là, on est au Mali, il est déjà malade. Je pense qu'il.
Il est malade, mais on l'envoie au front.
Oui, mais je pense que. Et d'ailleurs, un des majors qui l'avait beaucoup écouté pensait qu'il ne fallait pas qu'il y retourne. Je pense qu'il avait raison. C'est-à-dire que Stanislas est allé au moins une fois de trop au front. Et voilà, ce choc post-traumatique, la peur aussi de se retrouver en plein milieu du désert, dans une situation totalement incontrôlable. On fait que effectivement il est dans un espèce de d'état second qui lui fait vivre cette guerre, ce déluge de feu comme quelque chose de presque d'un autre monde, d'une autre dimension.
Culture Média continue. On va pas écouter du Wagner comme dans Apocalypse Now, parce que là aussi il y avait de la jouissance morbide.
Ouais.
C'est votre portrait musical, Denis Brognard, par Angèle Châtelier, dans un instant. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Un soldat presque exemplaire. Non, ce n'est pas Denis Brognard à TF1, c'est le titre de son premier récit qu'il publie chez Flammarion. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Philippe.
Je vous présente Denis Brognard et vice-versa. Denis, je vous présente Angèle Châtelier. Et en attendant le retour d'Hélène Manarino, vous faites ce matin le portrait de Denis Brognard, portrait en musique.
Eh oui, alors difficile Denis Brognard de résumer votre vie, tant vous en avez eu plusieurs. D'abord maître nageur, animateur dans un club med, puis vous avez tenté une fac de médecine. Mais alors, il y a bien un genre de musique qui a toujours été le fil rouge de tout ça, c'est bien le rock et notamment les Rolling Stones. Les Rolling Stones, c'était vos années étudiantes que vous avez passées à Caen, en Normandie. Vous étiez en fac de sport, encore une autre vie. À Caen, Denis Brognard, vous avez vécu la vie étudiante typique, fac le jour, club la nuit. Vous alliez danser au Brooklyn, au Galaxy ou au Rivabella sur la côte.
C'est les vrais noms.
Mais oui, mais oui. Il n'y a pas comme dans le livre, évidemment.
Ah, incroyable.
Le Galaxy à Courseulles.
Voilà, à Courseulles, exactement.
Que de souvenirs.
Donc vous dansiez sur les Stones ou Supertramp. Alors quel souvenir justement vous gardez de ces années un peu insouciantes de vos années étudiante?
Bah, c'était des années sympas, je roulais en deux chevaux, je faisais les allers-retours entre Paris où habitaient mes parents et l'endroit où j'étais sur place. J'habitais au bord de la mer à Courseulles, j'étais étudiant à Caen. Ce sont des belles années parce que j'adore le sport, donc j'étais en fac de sport. Mais j'étais en fac de sport dans la perspective d'intégrer une école de journalisme, donc c'était une période de transition. Et puis comme j'avais fait une année de médecine pour faire surtout plaisir à mes parents, j'avais un petit peu d'avance, donc j'étais pas obligé de travailler énormément en fac de sport, donc je faisais beaucoup de sport. Pas mal la fête. Et puis vraiment trois belles années.
Puis en médecine, j'ai quand même appris un petit peu à soigner la gueule de bois, Angèle.
Alors la ville de Caen a une fierté locale, musicale, c'est le rappeur Orelsan. Il est encore présent dans votre vie.
Simple, vous n'avez pas les bases. Basique, simple, simple, basique, basique.
Puisque je crois savoir que vos enfants écoutent beaucoup Orelsan, est-ce que vous aimez aussi?
Ouais, moi j'aime bien aussi, puis j'ai une histoire, une anecdote avec lui qui est assez étonnante, c'est que j'animais une grande soirée dans laquelle il jouait et il chantait, et au moment où je présente et où il arrive sur scène, je passe à Jardin pour sortir dans les coulisses, et là je me prends les pieds dans les prises électriques, j'arrache une prise électrique par inadvertance, tout s'éteint. Donc on a été obligé de réinitialiser. Donc il y a eu un petit blanc de 5 minutes. On n'était pas à Caen cette fois-ci, je me souviens, on était en Alsace. Mais je m'en souviens, et Orelsan, en tout cas, vrai canet, vrai normand.
Et
comme moi, passionné du Stade Malherbe de Caen.
Denis Brognard coupe le son et Angèle remet le son.
Mais alors Denis Brognard, il n'y a pas que le rock qui vous anime. Vous êtes aussi un homme de voyage et quand vous prenez le large, vous avez toujours une artiste dans les oreilles, c'est Véronique Sanson.
Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je suis.
Vous l'écoutez quand vous partez tourner Koh-Lanta ?
Je l'écoute tout le temps, que ce soit en courant, etc. C'est pour moi la plus grande artiste féminine française. Elle a une voix, elle a une personnalité. C'est quelqu'un que j'aime. Je rêverais de la rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontrée.
Comment ça
se fait ? Si vous pouvez m'aider. Ben, je ne sais pas. J'ai essayé de la contacter par les réseaux sociaux. Je sais qu'elle habite en banlieue parisienne. C'est... Véronique Sanson, c'est quelque chose d'extraordinaire.
L'appel est lancé, oui, Véronique Sanson, Denis Brognard veut vous rencontrer.
Ah ouais, vraiment.
Il veut vous mettre debout sur un poteau pour voir combien de temps vous tenez. Non, je plaisante, Angèle.
Alors, on parlait de Koh-Lanta, il paraît que vous avez chanté Gabi d'Alain Bachung pendant un voyage pour Koh-Lanta. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Je chante très mal, je suis très complexé, mais c'est vrai qu'on a un Koh-Lanta band, c'est-à-dire des techniciens de Koh-Lanta qui sont bassistes, guitaristes, chanteurs. Et une année, on était à Palau, en Micronésie, et il m'avait fait l'honneur de m'accueillir pour cette chanson que j'adore parce que j'aime aussi beaucoup Bachung et Gabi, c'est aussi une partie de mon adolescence. Je ne vous ferai pas l'injure parce qu'il fait très beau aujourd'hui de pousser la chansonnette. Mais
vous l'avez foiré quoi. Hein, vous l'avez foiré.
Non, bah, tout de suite, Philippe, vous êtes négatif. Non, j'avais essayé de faire de mon mieux. Et puis, comme mes amis de l'équipe de Koh-Lanta avaient été indulgents, ils m'avaient dit que c'était bien. Ah. Mais je n'ai pas réédité.
Alors, Denis Brognard, vous êtes donc un homme aux multiples vies. La musique en a toujours fait partie. Mais il y a 3 ans, c'est vous qui êtes devenu un artiste grâce à ce fameux A. Un DJ Ralette Freaks l'a remixé. Et vous pouvez maintenant rajouter sur votre CV que vous êtes à l'origine d'un tube, puisque ce remix cumule maintenant 16 millions de vues sur YouTube.
Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons ? Laurence ?
Des gens qui ont un travail.
C'est un tube.
Non mais c'est ça. 16 millions de vues.
Non mais c'est devenu même un mème, le mème A.
Ouais.
Tout le monde me demande ça dès que je rencontre quelqu'un. Vous pouvez me faire le A.
Et ça rapporte ?
À moi, zéro. Ouais,
voilà. C'est pas comme Gainsbourg. Il racontait avec quel cynisme il écrivait des textes. Zéro pour Denis Brognard, malgré 16 millions de vues. Merci beaucoup, Angèle.
À demain.
Dans un instant, notre premier indispensable, c'est Marjorie Adelson, qui va nous faire découvrir sa sélection de films disponibles en VOD. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Brognard, qui publie son premier livre. C'est pas tout à fait un roman, c'est un récit, même si c'est un peu romancé, mais il y a beaucoup, beaucoup de vrai. Ça s'appelle Un soldat presque exemplaire. L'histoire vraie d'un homme, écrivez-vous, qui aurait pu naître qu'un héros. C'est un combattant exemplaire, en même temps, dans sa vie privée, absolument pas exemplaire. Mm-hmm. Stress post-traumatique, agression de l'entourage, et notamment son épouse sur laquelle il tape. Vous racontez des expériences extrêmes. Je me dis, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Comment Denis Brognard peut-il inventer ça ? Dans les deux cas, ça va être intéressant. Par exemple, après une bagarre de Stanislas, il arrive même plus à ouvrir son œil. Il a la tête, dites-vous, comme Elephant Man. Et alors vous écrivez, alors il ne trouve rien de mieux que de se cautériser lui-même la plaie à l'aide de son fer à repasser bouillant. Il se repasse le front en se regardant devant la glace.
Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il...
Vous avez déjà fait ça ?
Mais non, moi évidemment je n'ai jamais fait ça, vous non plus Philippe.
Non, mais je ne savais même pas que c'était possible.
Mais il faut imaginer Stanislas...
Je verrai ça dans un film, je fais le lien avec ce que va raconter Marjorie Adelson qui sont des fictions, je verrai ça dans un film, je n'y croirai pas.
Mais certains des faits, moi j'ai eu du mal à y croire. Il prend un coup de tesson de bouteille après une bagarre et le lendemain il faut absolument qu'il soit normal pour pouvoir retourner à la caserne. Et il cautérise, donc il brûle les bord de la plaie avec son fer à repasser pour pouvoir remettre son béret et que ça ne se voit pas. Mais une autre fois, il prend un coup de couteau dans le bras et il se recoue le bras lui-même et il me dit « Heureusement, c'était mon bras gauche et j'avais appris à me recoudre moi-même et j'étais capable de le faire. Comme je suis droitier, c'était plus facile à faire. » Mais effectivement, il faut imaginer que ça, c'est vrai. C'est vous dire la capacité aussi de résistance à la douleur et de résilience aussi pour ce genre de combattant.
Ironiquement, comme vous le connaissez évidemment, vous avez déjà fait des blagues sur le fait que vous pourriez un jour l'inviter à participer à Koh-Lanta.
Non, compte tenu de son état et de ce stress post-traumatique qui l'accompagne, non. Mais en tout cas, dans sa résistance au mal et sa capacité à aller très très loin psychologiquement pour résister à des blessures, je pense qu'il pourrait faire partie des ténors.
Marjorie Adelson, bel enchaînement. Vous avez fait une sacrée grimace quand vous imaginiez le type avec le fer à repasser sur le front.
Moi, je suis du genre à tourner de l'œil. Hein,
moi aussi, je vous rassure.
Et moi aussi. Joyeux Noël, Félix. Chaque semaine, vous nous parlez des nouveautés VOD. On va commencer par I Care A Lot. C'est disponible sur Netflix. Le film était également en compétition au Golden Globe. C'était dimanche soir.
Oui, et l'actrice principale Rosamund Pike est repartie avec le prix de la meilleure actrice dans une comédie. Une comédie à l'humour noir dans laquelle elle campe Marla. Alors, Marla, elle est tutrice. Vous vous savez, pour les personnes âgées. Mais mieux vaut ne jamais croiser son chemin.
Ah bon ?
Car avec l'aide d'une médecin, elle repère les seniors les plus riches et elle les fait passer pour des vieux gâteux, donc incapables de gérer leur fortune. Et dès que la justice confirme la tutelle, hop, Marla les envoie dans un EHPAD et vide leur compte en banque. Voilà, donc c'est un système qui est bien rodé jusqu'au jour où elle tombe sur Jennifer Peterson, une petite dame au profil parfait en apparence, richissime, sans famille, sauf que Jennifer cache de lourds secrets.
Vous êtes dans le pétrin, ma grande.
Il va débarquer.
Vous verrez bien.
Jennifer, qui êtes-vous ?
Voyez-vous, j'ai eu accès à votre coffre à la banque. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a une enveloppe dans un livre.
Oh, vous êtes une voleuse !
Non, je suis votre tutrice.
Vous êtes ma tutrice voleuse ?
Dites-moi qui vous êtes.
Je suis la plus grosse bêtise que vous ayez commise.
Mais qui est donc cette dame ? Eh bien, en fait, c'est la mère d'un mafieux russe. Il est bien décidé à la sortir de l'EHPAD par tous les moyens, et pas les plus softs. Quant à Marla, la tutrice, il est hors de question qu'elle laisse passer cette poule aux œufs d'or.
Mais dis donc, c'est complètement amoral, votre histoire.
Oui, mais c'est absolument jubilatoire. C'est une compétition entre deux voyous sans limite. Le tout porté par un suspense haletant et un humour féroce sur cette question. Comment traite-t-on nos aînés ? Rosamund Pike est exceptionnelle en manipulatrice. Franchement, on lui donne le bon Dieu sans confession. Elle a largement mérité son Golden Globes. C'est un film drôle, culotté, un peu dérangeant, faut le dire. I Care a Lot sur Netflix.
Et alors, le deuxième film dont vous nous parlez, Marjorie, c'est La Vie scolaire, co-réalisé par Grand Corps Malade. Il était sorti en salle il y a quelques mois et on peut le retrouver, ce film, sur OCS.
Oui, car en cette période de distanciation sociale, notamment à l'école, eh ben, ça fait du bien de voir des élèves pleins de vie qui remuent dans tous les sens. Alors, on est dans un collège en Seine-Saint-Denis et Samia, c'est Zita Enro, est une jeune CPE, donc conseillère principale d'éducation. Alors, Samia, elle arrive d'Ardèche et elle ne connaît pas du tout la banlieue parisienne. Très vite, elle va être confrontée à un quotidien pas toujours facile, avec des élèves attachants, souvent turbulents et parfois très inventifs.
T'es arrivée en retard à cause de la grève.
Ah oui, il y avait la grève.
C'était une grève Air France et t'habites au bout de la rue.
Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé.
Voilà,
c'est drôle.
C'est très drôle, les vannes fusent en permanence. Grand Corps Malade et Mehdi Idir, les réalisateurs, se sont inspirés de leurs propres souvenirs pour le scénario. Mais derrière les rires, eh bien, le film montre aussi une forme d'échec de l'éducation nationale.
Évidemment, on avait à cœur d'essayer de se poser les bonnes questions sur pourquoi, comment ce système éducatif dans ces quartiers populaires-là, pourquoi ça marche pas si bien que ça.
Voilà, et que le système, effectivement, est plus fort que les êtres humains. Vous voyez, là, on n'a pas essayé de tirer sur les profs, sur les élèves, sur personne. C'est juste que parfois, le système est plus fort que les hommes.
Voilà, c'est un film drôle, plein de vie et qui fait réfléchir. C'est à voir sur OCS, en famille, par exemple, La Vie scolaire.
Et pour finir, Marjorie, vous nous parlez de Come Away, c'est avec Angelina Jolie, film inédit sur Prime Video.
Oui, alors je vous préviens, le pitch de départ est un peu tordu.
Bon, alors on s'accroche.
Alice, avant de se retrouver au Pays des Merveilles, et Peter Pan, avant d'être au Pays Imaginaire, étaient frères et sœurs. Oui, oui. Sauf que, suite à la mort de leur grand frère, leur mère, jouée par Angelina Jolie, tombe en dépression. Alice et Peter vont devoir choisir entre affronter la réalité compliquée dans leur famille ou s'enfuir vers l'imaginaire.
Les fées sont des créatures beaucoup trop magiques pour que les humains les voient. Alors quand on les regarde, elles se transforment en petites clochettes. Chaque enfant a sa fée, une fée qui n'a été créée que pour lui.
Alors l'idée de réinventer le passé de ces deux personnages cultes est originale et esthétiquement c'est vraiment un film qui est très beau. Il permet aussi de parler du deuil avec délicatesse aux enfants. Après, le film s'enlise dans quelques longueurs et c'est dommage car ça partait d'une belle idée. C'est à voir si vous avez l'âme mélancolique comme Away sur Prime Video.
Et donc quand on voit le départ, tenir une heure et demie comme ça à ce niveau-là, ça doit être très difficile. Vous êtes fan de films, vous regardez beaucoup de films, vous avez le temps, Denis Brognard ?
J'ai pas trop le temps, mais là, parmi la sélection, j'ai bien aimé, moi, le film de Grand Corps Malade. Je trouve que c'est une belle photographie et ça nous rappelle à tous pas mal de souvenirs sur, effectivement... Ce qui peut être amélioré aussi dans l'éducation nationale, mais c'était bien joué. Ben, j'avais vu ça dans un avion en partant sur un tournage.
Formidable. Il y en a des tournages et des avions dans la vie de Denis Brognard. Vous restez avec nous.
Moins qu'avant.
Moins qu'avant. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Luce Bernard, mais d'abord musique. On continue notre journée spéciale Serge Gainsbourg. C'est Gainsbourg avec Bardot et c'est évidemment Bonnie and Clyde.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Comment a-t-il vécu ? Comment a-t-il est mort ? Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore ? Eh bien, est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde, peut-être la chanson de Gainsbourg la plus écoutée en streaming. C'est d'ailleurs la chanson de Gainsbourg la plus écoutée en streaming, c'est ce que nous disait Antoine Genton ce matin dans le journal des médias, Gainsbourg, Bardot. Dans un instant, notre deuxième indispensable, c'est Louise Bernard, qui va nous faire découvrir une compétition de talent, mais pas comme les autres.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Brognard, un soldat presque exemplaire, c'est ce récit qu'il publie chez Flammarion. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, ce matin vous nous parlez d'un talent show en bon français, un concours de talent. C'est pas mon genre. Alors là franchement, c'est pas mon genre. Talent show un peu particulier, celui de quelqu'un qu'on voit sur TF1, mais là c'est pas du TF1, celui de l'humoriste Jarry.
Oui, alors pour prendre une métaphore de TF1, c'est un peu un The Voice qu'il organise sur ses réseaux sociaux. En fait, c'est une compétition pour un prix prestigieux, hein. C'est pour faire la première partie d'un de ses zéniths.
Ah,
pas tout de suite, évidemment. Il faudra un petit peu attendre en 2022. Mais la recherche du gagnant, elle est déjà d'actualité.
Alors, Denis Brognard qui aime les règlements clairs, comment se déroule la compétition?
Alors, pour trouver des candidats, tout est parti des réseaux sociaux de Jarry. Il a demandé à sa communauté si parmi eux, il y avait des artistes qui souhaitaient lui envoyer une vidéo. Il crée alors une adresse mail dédiée. Résultat, des milliers de candidatures affluent. Jarry pensait pouvoir faire la sélection tout seul. Finalement, il a eu besoin d'aide. Ils s'y sont mis à 6 pour pouvoir faire le tri. Un engouement qui a fait plaisir à l'humoriste, lui, qui veut mettre en avant les jeunes artistes.
Déjà, pour nous, les artistes qui avons un peu de notoriété, c'est très compliqué de garder un lien, de dire qu'on est encore là et qu'on est vivant. Et je pense à ces jeunes artistes qui n'ont pas encore de notoriété, qui n'ont pas encore une grosse communauté, pour eux, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'exister. Donc j'avais aussi envie de les mettre en lumière parce que même le plus petit espoir est important encore aujourd'hui.
Voilà, et après cette première sélection parmi les mails, Jarry a ensuite fait des lives, des directs sur Instagram ces derniers mois. Plusieurs soirées où il invitait 3 ou 4 candidats à chaque fois. Ils étaient tous à distance et ils rejoignaient simplement le direct vidéo. Il y a eu quelques magiciens et surtout beaucoup de chanteurs, d'où le The Voice dont je vous parlais, comme B1 qui se filmait depuis sa voiture. Alors je vous préviens, le son est extrait d'Instagram, donc c'est une mauvaise qualité.
Je sais pas si vous entendez bien le son là.
Super.
Ok. Je commence à chanter. I wanna sing oh my father, yeah. Way down in my soul. Je fais toute la chanson.
Encore, encore.
And the pain of my mother, no, no. When I let me go.
Et il a fait toute la chanson mais... ensuite.
Hein. C'est pas facile de jouer de la guitare dans sa voiture en plus.
Mais alors, en plus, il a une guitare électrique. Il a une guitare électrique et une boîte rythmique dans sa voiture. C'est qui ce gars?
Il a une grosse voiture.
Ouais.
Mais oui, mais il a été sélectionné, figurez-vous. Ouais. Ah bah oui, voilà. Parce que le public les départageait ensuite en votant sur Instagram. Gros succès à chaque soirée. Il y avait près de 200 000 votes. Et donc, il a fait partie des sélectionnés.
Mais alors, sélectionné pour quoi?
Pour une finale qui, là, n'a pas encore eu lieu. Ce sera dimanche à 17h en direct du théâtre de la Tour Eiffel. Fini les lives avec les moyens du bord. Place à un vrai spectacle avec un jury de professionnels, dont le programmateur et le directeur artistique de The Voice. Et là encore, vous pourrez aussi voter depuis chez vous, hein, sur les réseaux sociaux de Jarry. Tout ça sera gratuit, il y tenait.
Je me dis que la période où tout le monde galère, il faut que nous, on puisse proposer aux gens du contenu gratuit. C'est moi qui paie les choses, voilà, j'ai décidé. Et moi, je veux que les gens, quel que soit l'endroit où ils sont en France, puissent se dire que pendant une heure, ils vont avoir un spectacle. Pour moi, c'est vraiment important, ça fait partie de la démarche aussi.
Ils sont 7 chanteuses et chanteurs en compétition, dont 4 auteurs et compositeurs. Et le plus jeune des artistes, c'est Timéo, qui a 13 ans.
Quand on n'a que l'amour, pour n'est que raison, pour n'est que chanson.
Voilà, et si vous voulez regarder gratuitement le spectacle avec un meilleur son, hein, c'est dimanche à 17h sur les réseaux
sociaux.
Il était
dans sa salle de bain.
Non, hein. Ouais, dans sa voiturette.
C'est le son d'Instagram qui est mauvais, mais là, ce sera des grands moyens. Et vraiment, il y a un très, très haut niveau. C'est donc sur les réseaux sociaux de Jarry, Facebook ou Instagram.
Moi, je comprends parce pour bien connaître Jarry, je ressens toute sa générosité et son envie d'aider les artistes qui souffrent en ce moment.
Et vous-même, vous avez déjà participé à un casting?
Non, jamais. Et un casting comme celui de Jarry, je pense que je ne serais pas pris. Je ne pourrais pas être au théâtre de la Tour Eiffel. J'aurais été éliminé au premier round, je pense.
On aurait tous aimé vous voir sur Gabi. Merci beaucoup, Louise Bernard. On vous retrouve, Denis Brognard. C'est la dernière partie de Culture Média, tout de suite après ça.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Brognard, présentateur sur TF1, mais pas seulement, puisqu'on vous a connu ici au sport, au service des sports, journaliste à Europe 1. Et là, votre premier ouvrage, Un soldat presque exemplaire, c'est un récit, c'est presque une histoire vraie, pas du tout romancée, puisque vous racontez des choses très, très difficiles. Dans Paris Match, il y a un portrait très sensible de vous. Il est signé François Lestavel, je le cite, ce journaliste, car vous avez une histoire avec lui, il la raconte. Vous avez fait votre service militaire ensemble. Donc, il vous a connu dans des circonstances particulières. Il vous qualifie ainsi, Denis Brognard, le guerrier fragile. Ce qui donne 2 infos. 1, vous êtes un guerrier. 2, vous êtes fragile.
Ouais, c'est un joli titre. François, on a partagé effectivement notre service militaire. Je pense que je suis un guerrier parce que dans la vie, j'aime avancer, parce que je suis un passionné. Je pense que c'est dans ce côté-là. Et puis, fragile parce que effectivement, je suis, contrairement à ces militaires et à ces soldats, parfois, je peux peut-être manquer de courage. En tout cas, je ne mettrai pas ma vie en jeu. Et puis fragile aussi parce que j'ai peur de partir, de quitter ce bas monde.
La chose militaire ne vous est pas étrangère. Vous êtes également le parent d'associations de blessés de guerre.
Ouais.
Pourquoi?
Bah parce que on me l'a proposé et parce que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et de fierté.
Pourquoi vous avez dit oui?
Pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'aime l'armée, parce que j'ai un respect absolu pour les soldats qui nous défendent parfois loin de nos terres et qui défendent nos libertés. Et parce que ça m'a permis aussi de toucher du doigt et de rentrer en contact avec des blessés physiques. Mais ça, j'imaginais ce qu'ils étaient. Et puis surtout, et notamment Stanislas, rencontrer des blessés psychiques parce qu'on les connaît moins, ça se voit moins. Quelqu'un qui a perdu une jambe, ça se voit. Quelqu'un qui est grillé de l'intérieur et qui est victime de syndrome post-traumatique, ça se voit pas. Et pourtant, c'est une souffrance et c'est une véritable blessure qu'il faut soigner. Et la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, notamment, mais c'est la même chose dans la gendarmerie, de l'armée de l'air ou dans la marine, eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, sont au service de ces militaires qui ont beaucoup donné et qui ont en retour, besoin aujourd'hui d'être véritablement aidé.
Et vous le dites dans le livre, ça n'existe seulement que depuis 2008. Dans Match, François Lestavel écrit « Denis ne mesure peut-être pas assez que se mettre dans la tête d'un homme brutal avec les femmes risque de lui valoir un feu nourri de reproches à l'heure de MeToo, pas de collier d'immunité morale. » Vous vous êtes posé cette question-là ?
Je ne me suis pas posé cette question. Je ne suis pas là pour juger ce qu'a fait Stanislas. Je dis simplement que c'est un héros de guerre qui est blessé psychique. Je pense que ce sont des circonstances atténuantes pour expliquer et pas pour excuser l'indéfendable et ce qu'il a commis notamment auprès de son épouse. Mais ce qui est fort aussi, c'est que ce que je vous dis là, il le dit lui-même. Il est capable d'avoir ce recul aujourd'hui et de dire qu'il est indéfendable par rapport à ce qu'il a pu commettre comme acte.
Petit clin d'œil à Koh-Lanta dans le livre. Le type qui n'ose pas aller au combat, vous dites, c'est comme si Koh-Lanta, le premier jour, un candidat expliquait que sa femme et ses enfants lui manquent au point qu'il envisage d'abandonner.
Ça arrive.
Ça arrive ? C'est arrivé ?
Bah, bien sûr que c'est arrivé dans Koh-Lanta. Je me souviens d'un candidat de l'Est qui nous avait dit « Mon fils me manque le premier jour » alors que dans le portrait, il était là pour dire « Je vais aller au bout du monde et je vais tout casser ».
Koh-Lanta, ça démarre dans 10 jours, vendredi 12 mars. Grande nouveauté pour cette saison, Koh-Lanta, pour la première fois en Polynésie française, Tahiti, Bora Bora, Moréa. Autre nouveauté dans la mécanique du jeu, il y aura des armes secrètes. C'est pas des mitrailleuses.
Non, c'est pas des mitrailleuses, je vous rassure. Ce sont des moyens pour les aventuriers, lorsqu'ils sont en danger et lorsqu'ils sont capables de trouver ces armes secrètes, eh bien de se défendre et peut-être de surprendre les autres en conservant leur place dans l'aventure et en hypothéquant celle de certains autres qui ne s'y attendent pas.
Avec des candidats absolument gratinés, on a vu déjà les premiers candidats, c'est juste dingue ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils sont encore plus dingos, plutôt plus encore acharné que les précédents qui étaient déjà très acharnés.
Il faut être acharné pour faire Koh-Lanta, il faut être motivé au dernier stade, mais vous allez voir, il y a un pharmacien, il y a un Corse particulièrement truculent, il y a deux agriculteurs, je ne vous en dis pas plus, il y a une spécialiste
en survie. On voit un type qui s'entraîne à nager dans la piscine de ses parents avec un sac à dos. Donc je ne pensais même pas que c'était possible.
Quand vous voulez faire Koh-Lanta et que vous voulez gagner Koh-Lanta, il faut vous préparer et il a raison.
Voilà, Koh-Lanta, vous partez dans un mois, le suivi d'après ?
Ouais.
Formidable. On n'a pas le droit de dire où ?
Non.
Non. Je voulais vous demander où, mais comme je sais qu'il n'a pas le droit de dire, j'ai mal posé ma question. Mais
surtout, vous savez que je n'allais pas vous le dire.
Mais évidemment. Merci beaucoup, Denis Brognard.
C'est
je
moi
le
qui
rappelle,
vous remercie,
ce
Philippe.
Livre, Récit, un soldat presque exemplaire, c'est chez Flammarion. Merci d'avoir été
ça
avec
sort
nous
demain.
En direct. Ça sort demain, mercredi.
Merci, Philippe.
Demain, justement, on va recevoir pour la sortie de votre livre, mais ça n'a rien à voir, Stéphane Bern, qui fait un tour de France des agricultrices et des agriculteurs passionnés. C'est la ferme préférée des Français sur France 3. Et puis le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Il sort Judoka, un livre autobiographique qui parle de sa passion pour le judo. Mais évidemment, c'est un vecteur pour parler de beaucoup d'autres choses. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien. Merci encore, Denis Brognard. À demain.
Merci, Philippe.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.